entre Lubumbashi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les humanitaires sur les terrains. Ils sont débordés suite à un mouvement massif de déplacés enregistrés depuis la nuit de dimanche à lundi dernier. Ils plaident en effet pour un financement supplémentaire afin de faire face à la situation de l'air dans les Nord Kivu. Selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ce plaidoyer des humanitaires? Pour réagir et participer en direct à l'émission, composez le 081 890 4339. Vos commentaires, vous pouvez les poster sur notre page Facebook ou encore nous envoyer à notre courriel pa@radiokapi.net. Titim Poutou est à la réalisation de cette émission, Guy Manzangou à la mise en onde et Pierrot et la Mégie au standard. Ce programme est supervisé par Nicole Laka et présenté et coordonné par J.R. Lungembo. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible. Et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service. Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par Internet. pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous êtes nombreux à solliciter votre passage dans cette émission pour participer à cet échange et débat autour de la question sur la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous passer en onde dans quelques instants. Le temps pour nous de dire un bonjour à notre invité qui était déjà en ligne, Jaoun Cédé, qui est chargé des communications au programme alimentaire mondial au Nord Kivu. Bonjour,
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous, le bureau de la coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, recherche des fonds pour répondre aux besoins humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à des combats entre l'armée et plusieurs groupes armés, notamment la rébellion du 23 mars. Alors, vous êtes sur place au Nord Kivu. Est-ce que vous pouvez nous brosser quelques lignes, donc, la situation humanitaire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que la crise humanitaire est déjà déclarée?
La situation humanitaire, il faut dire que il y a eu beaucoup de personnes déplacées. Le camp, par exemple, déplacé de Kanyarutina, qui hébergeait près de 60 000 personnes déplacées il n'y a pas longtemps, ce camp s'est vidé de sa population et cette population s'est déversée à Goma et aussi dans les autres camps un peu plus au sud de Goma, à Mugunga et autres. Voilà, et donc toutes ces personnes en ce moment, ils sont en débandade et elles ont besoin d'une intervention humanitaire d'urgence. Et je peux déjà vous préciser qu'en ce moment, le PAM, compte tenu de notre mandat, qui veut que nous soyons là aux côtés des personnes affectées par ces conflits, nous sommes présents depuis le début du conflit, nous sommes encore ici et nous nous mobilisons en ce moment même avec d'autres partenaires pour pouvoir entreprendre une évaluation rapide de la situation humanitaire et envisager une réponse alimentaire d'urgence en cas de besoin.
Alors le fait que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo ça s'empire, est-ce que les humanitaires ont accès facile dans des camps de déplacés ou là où les besoins humanitaires se fait sentir?
Depuis ce matin, la situation est relativement calme. On voit les gens circuler en ville, quelques magasins sont également ouverts. Et donc, on a l'impression que la vie reprend peu à peu son cours normal. En ce moment, on a l'accès aux quelques personnes déplacées qui sont regroupées, par exemple, au centre Don Bosco, qui est ici même à l'intérieur de la ville. Il y a quelques partenaires qui sont également dans le camp de Mugunga. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment où on peut voir clair si si on pourra accéder à tous les autres déplacés qui sont tout autour de Goma. Et donc, comme je disais tantôt, nos équipes sont en train de se mobiliser pour pouvoir voir avec les autres partenaires dans quelle mesure ils peuvent se rendre dans ces zones-là et évaluer la situation qui est en place sur le terrain.
Voilà, le directeur des opérations d'OCHA a affirmé que la situation humanitaire actuelle que connaît la RDC s'ajoute à d'autres problèmes que connaît déjà le pays, notamment l'insécurité alimentaire. Et ça concerne directement le PAM, hein, donc l'insécurité alimentaire qui menace 4 500 000 de personnes, dont 1 million d'enfants âgés de moins de 5 ans. Là, nous imaginons que l'effort que doit fournir le PAM doit être décuplé ou multiplié, donc comme vous voulez.
Tout à fait. Lorsque nous prenons par exemple la seule province du Nord Kivu, ici le PAM fournit de l'aide alimentaire à près de 500 000 personnes, y compris les déplacés, les enfants dans les écoles, les enfants et les femmes souffrant de la malnutrition aiguë et tout ça. Et donc vous voyez que maintenant avec cette urgence, avec l'événement que nous venons de connaître, ça augmente encore, ça fait que les besoins vont croissant et que nous devons mobiliser davantage de ressources, et il nous faut le soutien de toute la communauté internationale et même nationale pour pouvoir apporter une réponse adéquate à toutes ces personnes, à tout ce nombre qui ne fait qu'augmenter, ce nombre de personnes ayant besoin de notre assistance, de notre intervention d'urgence.
Voilà, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à cette émission. Donc nous abordons la question sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo qui préoccupe au plus haut point les humanitaires. Ils peuvent composer les 081-890-43-39 pour nous rejoindre.
Parole aux auditeurs.
Maître Willy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Maître Willy.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour chers auditeurs.
Oui, au moment où nous gardons notre invité, pardon John, qui est en ligne, Willy, nous posons la question de savoir, selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ce plaidoyer des humanitaires. Vous avez suivi notre invité tout à l'heure, qui est chargé des communications au PAM, au Programme Alimentaire Mondial. Aujourd'hui, c'est vrai, les efforts doivent être doublés pour arriver à répondre, à faire face aux besoins humanitaires. Alors, selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais dans cette crise humanitaire?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, j'ai une petite observation. Nous savons que dans les temps, il y avait 60 000 déplacés, toujours dit au suite des conflits qui sont dans la région à l'est là-bas. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a 35 000 déplacés qui sont encore ajoutés. J'avais d'abord des petites observations à faire par rapport à ça. Nous savons tous que notre gouvernement demeure toujours et a été toujours incapable d'élaborer un budget qui doit répondre aux besoins de la population et précisément dans le secteur humanitaire. Cela étant, on se retrouve aujourd'hui à une catastrophe qui est purement naturelle, liée à à l'irresponsabilité du gouvernement. En plus, notre gouvernement a pris des mesures catastrophiques pouvant amener le pays dans un désastre notoire. Je suis personnellement très avili. Je profite de cette occasion pour partager mes sentiments les plus attristés avec mes frères et sœurs de cette région. Je leur dis que nous sommes de cœur avec eux. Donc, monsieur le journaliste, je disais que je suis personnellement très avili d'entendre parler nos autorités politico-administratives en disant, parfois, au lieu de chercher à sauver le pays qui se plonge dans un chaos, ils cherchent à évoquer l'agression du Congo, du Rwanda par du Congo par le Rwanda, tout ça. Et hier, nous avons suivi les comportements des réseaux sociaux, de ceux qui laissent passer les mitaines M23 comme s'ils partaient pour menace de santé. Donc cela est toujours dit à une mauvaise gestion du gouvernement. Donc il faut chercher un budget supplémentaire ou une aide circonstancielle pour nos frères qui sont en souffrance, une souffrance qui est due à la mauvaise gestion du pays par le gouvernement.
Oui, mais Maître Willy... Oui, Maître Willy.
Oui,
Maître Willy. Oui, Maître Willy, il existe bel et bien un ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. En RDC, je crois qu'il y a un programme.
Je pense que vous avez...
Pour des cas urgents.
Je suis en train d'incomber la faute au gouvernement, malgré qu'il y a le ministère des Affaires humanitaires qui existe. Le gouvernement n'est pas en mesure d'élaborer un budget, d'envoyer, de soutenir la population qui se retrouve dans une catastrophe pareille. Donc c'est pourquoi je suis en train d'incomber la faute, les responsabilités, je suis en train d'incomber la responsabilité, la charge de tout ça sur les épaules du gouvernement.
Voilà, en ce moment, qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement? Faudrait-il qu'il amorce une action urgente? Parce que hier, nous avons même appris que le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire voudrait bien faire le déplacement pour aller à Goma. Il en était empêché par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu. Voilà, donc vous demanderez quoi exactement au gouvernement congolais, concrètement?
Au gouvernement congolais, nous demandons d'abord d'urgenter une action immédiate, d'aller d'abord sauver, assurer l'état de santé, les conditions sociales de cette population qui est en péril à Goma.
Voilà, merci Maître Willy d'avoir appelé. Nous retenons que votre intervention tourne autour de l'implication du gouvernement congolais au lieu de trouver une réponse à la question humanitaire. Vous demandez aux autorités d'arrêter de chercher chaque fois les boucs émissaires parce qu'il y a des gens qui meurent et le nombre de déplacés, le nombre de gens qui ont besoin de l'assistance humanitaire, de l'assistance au fait, l'intervention humanitaire, ça croît. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un regard de ce côté-là. Merci Maître Willy d'avoir appelé. Gaston, vous êtes à Idiofa. Bonjour Gaston.
Bonjour tout le monde.
Voilà, est-ce que vous partagez le même avis que Maître Willy, l'implication du gouvernement congolais avec des actions urgentes pour aider, disons, les populations qui souffrent en ce moment?
Oui, c'est vrai ça. Vraiment, il me semble que les gens de bonne volonté, sinon les humanitaires, veulent nous abandonner parce que nous ne voulons pas cesser à causer la souffrance à notre population.
Non, précisons Gaston que les humanitaires ne veulent pas nous abandonner, seulement ils plaident pour un financement supplémentaire. Parce qu'en fait, ils sont débordés. Hier, c'était 60 000, aujourd'hui, il y a 35 000 qui s'ajoutent. Voilà, donc le nombre, ça croît, le nombre de déplacés, il faudra encore des moyens conséquents pour répondre aux besoins humanitaires sur le terrain.
D'accord. Je pense qu'ils sont en train de faire un effort pour mobiliser ces moyens-là tant que le conflit persistera. Mais vous savez que il est aussi vrai, ça personne ne l'ignore, que la victoire est de notre côté. Hein. Vous allez constater que l'autre venait de dire, surtout toujours dans le cadre des actions humanitaires, qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder, disons, là où ils peuvent être en action, c'est-à-dire il y a un conflit actuellement à Goma. Je pense qu'ils doivent avoir la possibilité d'y entrer afin d'assister ceux qui en ont besoin, parce qu'ils sont protégés même sur le plan international par un droit humanitaire. Donc ils doivent assister les blessés de guerre et puis les déplacer, ces gens-là. Je pense qu'ils ont ces droits-là. S'ils sont en train de réclamer qu'ils n'ont pas accès aujourd'hui, je vais demander aux belligérants, entre autres les rebelles ainsi que le gouvernement, de faire de telle sorte que lorsque il y a ces besoins-là, ces gens-là puissent intervenir, ce serait une bonne chose. Mais je suis en train de réinsister pour dire que vous savez que lorsque nous-mêmes, nous causons des problèmes et que la charge revient maintenant à la communauté internationale pour assister, il serait bon que nous-mêmes, nous soyons d'abord en mesure de faire de telle sorte que les problèmes ne puissent plus. Parce que chaque État a son problème et chacun son problème. Et si nous créons des problèmes et nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les conséquences qui en découlent, je pense que l'intelligence serait de changer les tactiques. Parce que, à mon avis, notre gouvernement a la responsabilité de protéger sa population, de mettre les moyens en jeu pour que l'ennemi soit bouté hors de notre territoire. Ça, c'est le devoir d'un gouvernement légitime qui est le nôtre. Et je suis en train de craindre, je ne sais pas si vous allez partager cet avis avec moi.
Allez-y.
Je suis en train de craindre que l'allure où vont les choses, que nous puissions remettre en cause ces processus démocratiques que nous avons entamés jusque-là. Parce que vous allez constater que, actuellement, toute l'énergie du gouvernement doit être focalisée à la guerre, au moment où on nous fait croire qu'il y a une démocratie, les élections, les trucs comme ça. Et ces gens-là, quels sont leurs intérêts? Vous ne craignez pas que demain, une personne s'impose au pouvoir pour dire que non, il faut toujours se battre avec ceux qui ne veulent pas les élections, ceux qui ne veulent pas la démocratie? Et je ne sais même pas vraiment quelle est disons, la cause, disons, l'intérêt, soit la raison qui pousse nos propres compatriotes, soi-disant, à prendre les armes. Ils doivent cesser, parce que l'homme blanc, à l'entendre parler, il pense que
voilà.
Son nom c'est sautier,
voilà,
qu'il est en train d'appuyer.
Oui, Gaston,
il serait bon
oui,
que nous changions le comportement.
Oui, Gaston, il y a bon nombre d'auditeurs qui attendent aussi de répondre. Donc nous retenons simplement que vous, là, vous parlez de la mobilisation générale, donc qui ça nous rappelle quand même vers les années 98, où il y a eu cette mobilisation pour un effort des guerres. Cet effort consistait également à mettre le moyen pour assister les populations qui vivaient dans une situation un peu difficile dans l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu des gens cotiser, récolter de l'argent ça et là pour venir en aide aux déplacés et aux familles dépourvues des maisons. Donc voilà, donc vous demandez à ce qu'on puisse réellement revenir à cet élan de solidarité. Et enfin de pouvoir remonter également la pente. Merci d'avoir appelé. Nous avons Charles qui est à Colézy. Bonjour Charles.
Bonjour M. Jérôme. Je suis ravi de pouvoir me rappeler.
Voilà Charles.
Je vais commencer quand même à dire ce que vous avez demandé dans votre thème. Je suis sérieusement choqué et la mercine de mon cœur, en tout cas, c'est ça. Hier, j'ai même failli tomber la pente. Sur base de ce qui s'est passé à l'est. Mais je vous dis que, en tout cas, ce que moi je demanderai à notre gouvernement, je suis à côté de ce gouvernement, de ne pas sérieusement négocier avec le rebelle, puisque c'est l'éventail qui impose. Et je demanderai à ce gouvernement.
Oui, Charles, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Charles. Oui Charles, le débat du jour tourne autour de la situation humanitaire. Quelle est, disons selon vous, hein, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face au plaidoyer des humanitaires qui demande à ce que on pose. Voilà. Donc restons. Oui, si on peut rester vraiment dans les sujets pour ne pas nous éparpiller et pour permettre à ce que les autres qui arrivent après puissent vraiment s'imprégner du sujet. Hein, voilà. Merci Charles, le temps que vous puissiez encore formuler votre intervention. Nous prenons Freddy qui est à Lubumbashi. Bonjour Freddy. Freddy, vous êtes avec nous, Freddy. Freddy, vous êtes en direct. Voilà, le temps que Freddy revient à l'émission, nous avons en ligne, Joanne Cédé, qui est le chargé des communications au PAM. Vous êtes avec nous, vous avez suivi les interventions de tout à l'heure. Il y a un auditeur qui a évoqué le droit humanitaire, et là, ça nous pousse à revenir sur les aspects de couloir humanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, les humanitaires ne rencontrent pas des difficultés par rapport à la position de l'armée et aussi la position des rebelles qui sont sur le terrain?
Voilà, je crois que les partis au conflit, ils comprennent plus ou moins nos mandats, les différents mandats des agences humanitaires. Et donc, s'il y a un appel que nous pouvons lancer envers elles, c'est de protéger, de continuer à protéger les populations civiles et surtout à respecter la neutralité des travailleurs humanitaires pour nous permettre d'apporter la réponse nécessaire aux populations qui souffrent, aux personnes qui ont tout abandonné derrière elles pour chercher un refuge dans des endroits qu'elles ont jugés un peu sécurs pour elles-mêmes et leurs familles. Et donc, nous réitérons cet appel-là que les différentes parties au conflit doivent respecter cette neutralité des travailleurs humanitaires.
Voilà, nous revenons encore sur ce qu'avait dit, les rapports du bureau de la coordination humanitaire, le responsable donc des opérations, le directeur des opérations a dit, je cite, nous avons désespérément besoin d'un financement supplémentaire, pour répondre donc aux besoins, vous l'avez dit, expliquant que sur les 791 millions de dollars que l'ONU et ses partenaires ont demandé cette année pour financer leurs opérations humanitaires en RDC. Seulement 429 millions avaient été reçus jusqu'à présent. Donc, il reste encore autre chose.
Voilà, il y a un gap considérable comme les collègues ont relevé dans le communiqué dont vous faites mention. Et pour le PAM particulièrement, depuis plus de 3 mois, nous continuons à faire ce plaidoyer que nous avons besoin pour toutes nos opérations à l'est, par exemple, du pays, y compris le nord Kivu, le sud Kivu et la province orientale. Nous avons besoin d'un peu plus de 100 millions de dollars américains pour pouvoir continuer à faire tourner nos opérations pendant les 6 prochains mois. Et je crois qu'aujourd'hui, ce gap reste aussi important pour ce qui concerne l'assistance alimentaire. Et donc, nous continuons toujours à faire ce plaidoyer auprès de nos partenaires, de nos bailleurs de fonds, pour qu'ils ne puissent pas oublier la crise qui est en cours dans les Kivu et qu'ils puissent nous donner les moyens nécessaires pour pouvoir y faire face.
081 890 43 39 pour participer en direct à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Edgar, vous êtes à Kananga et Julien à Guémena. Edgar, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Edgar, selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ce plaidoyer des humanitaires?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le premier groupe d'auditeurs a bien brossé la situation. Quant à moi, bon, on dit que gouverner, c'est prévoir, monsieur le journaliste. Nous regrettons du fait que dans notre gouvernement, il ne prévoit rien. C'est dommage que l'on soit arrivé là, monsieur le journaliste. Je ne sais pas s'il y a une part réservée aux urgences dans notre budget. Sinon, monsieur le journaliste, nous proposons que tous les membres du gouvernement centrale puisse prendre leur salaire, ne fût-ce que 2 mois seulement, pour pouvoir donner aux humanitaires en fait de pouvoir faire face à cette situation, monsieur le journaliste. Si ça ne suffit pas, on peut étendre cette mesure même au gouvernement provincial, monsieur le journaliste, pour qu'on puisse vraiment venir en aide à notre population de l'Est qui est en détresse, monsieur le journaliste. C'est ce que je voulais dire.
Donc voilà, donc vous demandez comme pour pallier à ce manque de programme d'intervention humanitaire pour les cas d'espèce, vous demandez que l'autorité congolaise puisse être responsable, c'est-à-dire qu'elle prêche par l'exemple, prendre ce salaire et mettre à la disposition des humanitaires afin de répondre à ce besoin qui est vraiment très très préoccupant. Merci Edgar d'avoir appelé et aussi d'avoir apporté cette contribution. Julien, vous êtes à Guémena. Bonjour Julien.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quel est votre point de vue par rapport à ce débat?
Ok. Pour moi, ce que je peux dire est que le gouvernement congolais n'a rien à faire avec tout ce qu'on est en train de le reprocher. Tenant compte de notre population venant de Brazzaville, c'est de Libye. Dès qu'ils sont arrivés à Kinshasa, qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait comme un État avec sa population? Il n'a rien fait. Bon, ce qu'on est en train d'attendre toujours est que les communautés internationales finissent à arriver à l'assistance du peuple congolais. C'est ce que je peux dire.
Voilà, donc Julien, selon vous, l'histoire se répète, le silence que nous avons enregistré du côté du gouvernement congolais pour les cas humanitaires des Congolais venus de Brazzaville, ceux qui sont venus également de la Libye, prouve à suffisance que pour l'instant, en tout cas, les populations du Nord Kivu ne bénéficieront pas de l'intervention urgente du gouvernement congolais. Donc vous êtes un peu sceptique malgré l'existence du ministère des Affaires Sociales et Action Humanitaire. Merci beaucoup, Julien. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, comment réagissez-vous, Arsène?
Bon, d'abord, je vais dire ceci. On crée des guerres pour créer des histoires et après, ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Il y a près de 100 000 personnes déplacées. Maintenant, ce sont les aides qui doivent aller. La première chose, vous demandez... comment le gouvernement va intervenir. Mais la première des solutions que moi je trouve la plus facile, c'est que le gouvernement doit démissionner, parce que ça va beaucoup aider à ces gens-là. Parce que quand il y aura un autre gouvernement plus responsable que le gouvernement actuel, on saura plus facilement aider ces gens-là en terminant d'abord cette guerre. Parce qu'il faut d'abord résoudre les causes de cette guerre qui entraîne les déplacements. Bon, ensuite, pour le gouvernement actuel, ils ont des difficultés pour payer leurs militaires. Où ils vont trouver de l'argent pour aller donner près de 300 millions de dollars qui manquent aux humanitaires? Vraiment, la situation est grave, monsieur. Et nous devons nous mettre tous en marche. Et d'ailleurs, la population peut contribuer. Nous, ici, à Kikwit, par exemple. Si aujourd'hui, la Monisco qui a des engins venait à Kikwit et disait, bah, écoutez, là-bas, il y a des gens qui sont en train de souffrir, donnez le maïs. Nous allons avoir assez, on va donner. Mais qui va prendre l'initiative? Si on fait appel au gouvernement, mettez les avions. Les gouvernements, la population n'a pas confiance, il faut se le dire. La population n'a pas confiance à ces gouvernements, c'est pour ça que le gouvernement échoue. Et alors, maintenant, nous devons nous mettre, nous, Congolais, nous devons nous mettre en marche pour voir comment aider nos frères qui sont en train de souffrir. Et les organismes qui sont en train de venir au secours à cette population qui est déplacée. Pour mettre les moyens, nous ici, nous sommes dans une province agricole. On va trouver des arachides, nous allons trouver du maïs, nous allons trouver du mikungu ici, comment chez nous, on va les envoyer. Voilà ma contribution, monsieur.
Merci beaucoup, Arsène. Vous proposez un élan de solidarité nationale, donc que chacun en son coin donc puisse contribuer afin de pouvoir répondre à ce besoin humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et vous vous posez sans doute la question de savoir qui prendra l'initiative d'organiser cet élan de solidarité. Parce que la population en ce moment n'a plus confiance au gouvernement, et vous avez même vous personnellement proposé la première solution, donc que les autorités puissent être responsables, donc puissent démissionner, n'ayant pas au fait un programme urgent, un programme d'intervention urgente pour les cas pour les cas d'espèce. Voilà, donc ça c'est une proposition. Si cela ne pourrait être aussi donc une solution idéale selon vous, nous ne pensons pas, mais je crois que les autres ont peut-être leur autre point de vue. Mais nous allons tourner du côté de notre invité, Djaoun, qu'on va peut-être libérer d'un moment à l'autre, parce qu'il a d'autres urgences, et surtout, la situation de l'heure demande assez qu'il puisse assister à d'autres réunions, et nous accorder cette interview quand même, voilà, donc on va quand même demander en ce moment comment vous faites au niveau des interagences pour venir en aide à ces populations qui éprouvent énormément de difficultés en ce moment. Comment vous vous organisez à l'interagence?
Voilà, en interagence, nous essayons de partager les informations parce que chacun a un domaine spécifique d'intervention. Et en ce moment même, il y a une réunion interagence qui se tient quelque part dans la ville de Goma où participent la plupart des acteurs humanitaires. Et cette réunion va certainement aboutir sur une évaluation des besoins où chacun se retrouvera dans son domaine et pourra décider de ce qu'il fera en fonction de la population affectée par les conflits armés. Voilà, et donc c'est à travers le partage d'informations, les échanges entre les différentes organisations pour pouvoir avoir l'information juste et trouver ensemble les moyens aussi de mobiliser la communauté internationale, de mobiliser les ressources afin de répondre efficacement aux besoins qui sont identifiés clairement.
Voilà, alors si on peut se faire une idée, parce que vous avez suivi tout à l'heure les interventions des uns et des autres, voudraient bien se faire une idée sur l'appui du gouvernement. C'est vrai, les agences sont sur le terrain, qui travaillent aux côtés du gouvernement, qui viennent en appui au gouvernement congolais. Aujourd'hui, la question c'est quel peut être l'apport du gouvernement congolais dans ces plaidoyers, l'apport du gouvernement congolais face à ces plaidoyers des humanitaires qui demandent assez qu'on puisse quand même les aider, qui est vraiment une aide supplémentaire.
Vous voyez, l'apport du gouvernement congolais, ça peut être multiple. Ça peut par exemple être l'accès aux bénéficiaires, la protection des travailleurs humanitaires et même des bénéficiaires, et aussi le plaidoyer auprès des autres partenaires des agences ou des ONG internationales et même nationales intervenant sur le terrain. Nous avons des partenaires qui sont presque les mêmes que ceux du gouvernement congolais, et donc si le gouvernement essaie de faire ce plaidoyer en faveur des organisations, de parler à ses partenaires de la situation, ça contribue également à à mobiliser davantage de ressources qui pourront aider dans la réponse à cette situation d'urgence que nous vivons.
Pardon, Djaoun, nous rappelons que vous êtes chargé de communication, donc on ne va pas prendre trop votre temps. On vous libère et à la prochaine.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Rappelons que sur la route depuis les combats de dimanche entre militaires et rebelles du M23, les déplacés du camp de Kanya-Ruchinya, situé au nord de Goma, ont pris la direction du camp de Mugunga, au sud de la ville. Vous avez même suivi l'intervention de tout à l'heure de notre invité, Djaoun, qui l'a mentionné également. Certains de ces déplacés ont passé leur nuit au bord de la route. D'autres sont logés par des familles d'accueil dans des cabanes de fortune. Les déplacés qui sont arrivés à Mugunga disent manquer de tout. Alors pour reprendre les propos des uns, je cite, nous craignons premièrement la famine car il n'y a ni nourriture ni eau. Confie donc à un déplacé indiquant avoir entendu que 4 personnes sont mortes de faim dans les camps. Donc les besoins sont là, les besoins humanitaires sont là, les humanitaires sont en train de les évaluer et que pour préparer au fait une intervention humanitaire dans les prochains jours. Daniel, vous êtes en Bujimaï. Bonjour Daniel. Daniel, vous êtes avec nous? Voilà, nous prenons plutôt Jean-Pierre qui est à Kinshasa. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà Jean-Pierre, comment réagissez-vous par rapport au débat du jour?
Bon, vraiment nous... C'est vraiment notre indignation. Nous savons les gouvernements congolais, nous savons comment les gouvernements congolais réagissent le plus souvent quand nous avons des problèmes de catastrophe et consorts. Et nous voulons vous faire savoir qu'en connaissant les gouvernements congolais, nous savons qu'ils ne vont pas agir, nous ne devons pas beaucoup compter sur le gouvernement, puisque vous savez, les militaires congolais sont en train de combattre
Jean-Pierre.
Consorts, et nous proposons que les humanitaires et que les gouverneurs des provinces voient ce qu'ils peuvent faire au niveau des provinces pour essayer d'appuyer les Nord-Kivu et pour essayer d'appuyer les humanitaires. Sinon, nous allons encore subir des morts de la population pour cette situation.
Oui, mais un de vos prédécesseurs a dit, mais jusqu'à quand le gouvernement restera irresponsable? Parce que quand vous demandez à d'autres personnes de prendre cette responsabilité, Jean-Pierre, là, est-ce que vous ne mettez pas en cause l'existence quand même de notre ministère des Affaires sociales et actions humanitaires? Parce qu'il y a quand même des actions qui sont menées par rapport à ça.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, ce n'est pas seulement ce ministère qui est en train de manifester un calme qui nous étonne, qui est en train de nous ne devions pas parler de ce sujet si ce ministère était en fonction. Donc, si nous parlons, c'est parce qu'il y a un problème. Nous avons ces problèmes aussi au niveau du ministère de la Défense. Vous savez, à chaque fois que nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de faire qu'il y ait des reculs. Et le nombre de personnes qui deviennent un problème, le nombre de déplacements internes, en effet, qui s'augmentent. C'est pour cela que nous appelons aux autres personnes, puisque avec notre gouvernement, nous pensons qu'il n'est plus à mesure de faire quelque chose. Tout est en train d'aller des mal en pire. Donc nous appelons les autres personnes, nous appelons les organisations internationales, nous appelons la population congolaise à travers les gouvernements provinciaux à voir ce qu'ils peuvent faire, puisque notre gouvernement, nous ne comprenons plus rien avec les gouvernements. C'est pour cela que nous appelons ces personnes.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir appelé de Kinshasa et surtout merci de votre contribution. Hein. Vous souhaitez que d'autres personnes puissent avoir aussi cet élan de solidarité, de pouvoir réellement répondre aux besoins humanitaires qui se posent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous donnons d'ailleurs le privilège de recevoir notre deuxième invité parce que vous savez que c'est vraiment une émission consacrée aux humanitaires. Nous allons faire le tour des quelques humanitaires qui ont accepté de faire le débat avec nous aujourd'hui. Donc nous allons recevoir dans quelques instants, à Amoury Grégoire, chef d'émission adjoint à l'ONG MSF Belgique, Médecins sans frontières Belgique. Donc nous allons le recevoir dans quelques instants, tout en vous rappelant également que vous pouvez participer à ces débats en composant bien entendu les 081 890 43 39 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs.
Avant de retrouver notre invité, Daniel, vous êtes en Bougimaï. Bonjour, Daniel.
Bonjour, c'est Jody.
Voilà, c'est JR qui est à l'antenne.
C'est JR, ok. Merci.
Voilà, oui, Daniel, vous êtes avec nous. Selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face au plaidoyer des humanitaires au LSE? La crise dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les humanitaires sur le terrain. Ils sont débordés suite à un mouvement massif des déplacés enregistré depuis la nuit de dimanche à lundi dernier. Ils plaident en effet pour un financement supplémentaire afin de faire face à la situation de l'air dans le Nord Kivu. Comment réagissez-vous?
Oui, c'était prévisible. Depuis que les M22 étaient en train d'évoluer, en train de venir vers Goma, le gouvernement devait savoir que le nombre de déplacés devait augmenter. Il fallait qu'ils puissent prévoir. Donc, il fallait qu'on prévoie un moyen possible pour arriver à soutenir le poids, à supporter ce poids. Mais pourquoi? Nous sommes toujours en train de vivre dans des négligences en négligence. Par rapport à des discours, par rapport à des services. Moi, personnellement, si je voulais que je puisse proposer quelque chose, je voulais aller dans la même ligne de vision, de pensée, comme mon prédécesseur. Que toutes les provinces, c'est le moment de montrer qu'on est à côté de nos frères gomatraciens qui souffrent. C'est le moment qu'on doit être avec eux. Que toutes les provinces se mobilisent pour mettre sur pied un moyen possible afin de soutenir nos amis de l'Est qui sont en train de...
Oui, Daniel, ben Arsène a proposé, par rapport à cet élan de solidarité, qui va en prendre l'initiative, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, selon lui, y a la population n'a plus confiance au gouvernement, mais qui va organiser cet élan de solidarité?
La fois passée, on était ici, il y avait le même problème à l'Est. Nous avons vu, par l'initiative de la première dame, Liv Lembe, il y a eu des récords presque partout, de moyens, de récords de fonds. C'était arrivé encore, c'était montré à la télé, on l'a vu. Mm-hmm. Les Chinois qui sont en train aujourd'hui de prendre nos minerais, ce sont les premiers producteurs de riz. Ils ne sont pas là que pour prendre nos minerais partis, ils doivent aussi nous ramener le riz et soutenir les gens qui sont à l'aise en train de souffrir. Ils sont nombreux à l'aise. Ils vivent avec eux, et pourquoi aujourd'hui, pendant que nous sommes dans la souffrance, ils sont nos amis que pendant la joie, ils prennent nos minerais, ils sont contents. Tous les amis, les Congo, Brazza, partout ailleurs, pourquoi ces gens-là ne peuvent pas venir en soutien? Deux meurent de faim. Pendant qu'il y en a, je crois, il y a l'époque, il y avait un pays qui était en souffrance. Nous, les Congolais, on avait amené des tonnes d'aliments dans ce pays, je crois, peut-être vers le sud d'Afrique. On les avait assistés. Pourquoi eux ne peuvent pas venir aussi assister les Congolais? Nous, d'abord, nous-mêmes à l'intérieur, nous devons nous prendre en charge avec l'initiative de nos ONG qui font du bruit, la société civile et tout, qu'on puisse faire arriver quelque chose à nos frères et sœurs qui sont à Goma et qui doivent survivre. Tout le médecin, tout le gens, tout ce monde-là, les agronomes, ils doivent se mettre ensemble, de réfléchir ensemble, dans un bref délai, soutenir nos frères et sœurs qui meurent de faim, par notre propre faute, par notre petitesse. C'est ce qui fait casser que d'abord, normalement, dans un pays responsable, le gouvernement doit démissionner. Ils doivent tous partir. On ne peut plus commencer. Ils doivent partir et être poursuivis en justice.
Voilà, oui, Daniel, c'est vrai, il faudrait retenir qu'en ce moment, il y a quand même des réunions qui sont tenues, ça et là, à Goma par exemple, ou à Kinshasa, il y a une réunion interagence des Nations Unies pour voir comment on peut répondre à cette question humanitaire qui se pose avec acuité en ce moment par rapport à la situation. Donc MSF, Oxfam et tant d'autres ONG internationales sont tous ensemble donc pour voir dans quelle mesure on peut apporter une intervention humanitaire de grande envergure. Merci Daniel. Odiane, vous êtes à Kisangani. Bonjour Odiane.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, est-ce que vous partagez les avis de vos prédécesseurs qui ont proposé, la mise au pied d'une structure qui pourrait organiser peut-être un élan de solidarité nationale pour aider les populations de Nord Kivu, et d'autres qui ont proposé également l'implication totale du gouvernement congolais afin de répondre à ces besoins humanitaires?
Bon, avant tout, j'aimerais vous dire que je suis d'abord peiné et choqué par tout ce qui s'est passé à l'est du pays.
Quant à ce qui concerne la proposition, j'aimerais que l'Église catholique puisse prendre le devant pour essayer de susciter cet élan de solidarité. Parce que si nous attendons l'intervention du gouvernement, je crois pour ma part que cette intervention viendra ou ça ne viendra pas. Donc il est tout à fait normal que nous tous Congolais, nous puissions contribuer et que l'Église catholique puisse acheminer ses vivres auprès de la Monisco avec tous ses appareils qui circulent de gauche à droite. Puisse amener ses vivres auprès de la population qui sont à l'est du pays. Donc, et également la communauté internationale qui est passive devant tout ce qui se passe à l'est, elle a l'obligation également de contribuer pour soulager la souffrance de notre peuple. Donc, si on se réfère au budget, parce que vous avez parlé du ministère des Affaires humanitaires, moi je ne crois pas qu'il y a grand chose de ce côté. Comme on ne peut pas abandonner que nos frères et nos sœurs qui souffrent là, nous devons nous tous nous mobiliser pour intervenir afin que leur souffrance soit au moins allégée.
Voilà, Oudiane, merci. Nous avions d'ailleurs souhaité faire intervenir le responsable du ministère des Affaires sociales et actions humanitaires. Bon, il s'est fait malheureusement qu'ils ne sont pas disponibles, d'autant plus que en ce moment, il se tient une réunion interministérielle convoquée par le Premier ministre. Bon, je crois que ce n'est qu'une partie remise. Sinon, on avait souhaité vraiment qu'il y ait quelqu'un du ministère des Affaires sociales pour nous éclairer, pour disons en fait nous faire une idée sur l'apport du gouvernement congolais face à ces plaidoyers des humanitaires ou comment les choses se passent sur le terrain aux côtés des humanitaires. 081 890 43 39 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Amoury Grégoire, vous êtes chef d'émission adjoint au niveau de Médecins Sans Frontières Belgique. Vous êtes avec nous, voilà. Vous avez suivi tout à l'heure les uns et les autres. Mais la plus grande question parmi le grand problème qui se pose actuellement, on peut noter également des cas de propagation des maladies hydriques par rapport à cette promiscuité qu'on enregistre au niveau des camps des déplacés. Mais comment MSF Belgique s'emploie ou ça s'applique pour aider ces populations sur les terrains?
Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Entendu, les Médecins Sans Frontières sont restés concernés par la situation. Donc, les équipes de Médecins Sans Frontières sont restées depuis longtemps sur le terrain et à travers les derniers événements également. On est bien entendu, comme vous le soulignez, fracassé par la situation dans les camps. Les derniers jours, on a eu un peu de mal, bien entendu, à être aux côtés des populations vu les difficultés sécuritaires dans la ville. Aujourd'hui et depuis hier, les équipes se sont redéployées. On s'est focalisé dans un premier temps sur les hôpitaux où il y a eu plusieurs blessés qui sont arrivés, qui ont commencé à être en charge des structures médicales et où Médecins Sans Frontières a pu appuyer notamment à travers des donations de matériel chirurgical et de pansements pour les blessés. Et on continue l'appui aujourd'hui dans les camps où on travaillait déjà, ou du moins où on a fait des appuis ponctuels. Bien entendu, comme vous le soulignez, les problèmes principaux que la population rencontre aujourd'hui, c'est les problèmes de nourriture, d'eau, les besoins essentiels. La majorité des populations ont quitté rapidement et sans pouvoir emporter beaucoup de leurs moyens. Les maladies à potentiel épidémique sont un souci. Plusieurs des passés qui venaient notamment des camps de Kanya, Rochinia au nord de Goma sont en fait des personnes qui souffraient en partie pour certaines de choléra. Et donc on craint bien entendu que potentiellement il puisse y avoir une situation qui s'empire. Mais on garde un œil très attentif là-dessus. Les autres maladies, bien entendu, peuvent être des maladies comme la rougeole, quand on a une telle promiscuité dans les camps, et bien entendu les besoins en soins de santé primaire généraux. Donc Médecins Sans Frontières essaye d'être présent dans les endroits essentiels et là où les besoins sont les plus importants. Aujourd'hui, les équipes s'affairent à trouver et à s'arranger pour répondre à ces besoins et adapter réellement la réponse aux besoins qu'on va voir évoluer au jour le jour.
Voilà, selon nos sources, vous craignez, en tout cas comme tous les autres humanitaires, qu'un drame, donc vous redoutez un drame si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Et quand les humanitaires parlent des mesures nécessaires, ils font allusion à quoi concrètement?
Bon, au niveau de la coordination des organisations humanitaires, je laisse parler les personnes responsables par rapport à ça. À notre niveau, ce qui nous semble absolument essentiel, c'est du moins que les populations qui sont dans le besoin, qu'elles soient dans les camps ou ailleurs, puissent avoir l'accès aux soins de santé dont elles ont besoin et aux besoins essentiels vitaux qu'elles ont besoin. Donc, que tous les acteurs qui sont présents puissent garantir que cela soit possible et que l'accès notamment de l'aide que Médecins sans frontières peut apporter puisse être possible, ainsi que l'accès des autres. Et donc que tous les acteurs qui sont en mesure de permettre cet accès puissent s'employer à ce que ce soit une réalité.
Alors, on vous entend parler, c'est comme si le couloir humanitaire pose également un problème.
Non, je ne parle pas d'un couloir humanitaire ou d'un accès. Aujourd'hui, les équipes de Médecins sans frontières peuvent circuler. On a l'accès dans Goma et dans d'autres régions où nous sommes, dans le Nord Kivu, mais ailleurs aussi, au site où nous avons besoin. Bien entendu, on nécessite un certain degré de sécurité pour pouvoir accéder à ces populations. Et pour cela, on a la nécessité évidemment de s'assurer à tous les niveaux que ces équipes peuvent travailler sans être exposées. Aujourd'hui, c'est le cas. On espère qu'on va pouvoir continuer à tout moment à avoir cette aide. Et bien entendu, dans les moments plus tendus, cette situation est rendue plus compliquée. On rencontre à certains endroits quelques difficultés ponctuelles, mais on essaye avec les différents acteurs d'engager le dialogue de manière à garantir cette présence et être présent auprès des populations civiles, quel que soit le groupe qui contrôle la zone, de manière à réellement avoir cet accès auprès des populations qui reste notre unique intérêt dans la situation actuelle.
Voilà, Monsieur Mouri, le camp de Mugunga compte actuellement, selon nos informations, plus de 90 000 déplacés qui ont fui les combats entre militaires et rebelles dans leur localité depuis le mois de juin pour certains. Alors, comment vous y prenez dans ces camps actuellement?
Alors, pour le moment, on est en train d'évaluer la manière dont on va pouvoir apporter l'aide la plus efficace à cet endroit-là, tenant en compte également les autres aides qui peuvent être apportées. On constate effectivement des présences massives, notamment dans le camp Mugunga, mais également dans les autres camps, du côté de Don Bosco et dans d'autres sites également. On a plusieurs équipes de Médecins sans frontières qui sont présentes. On a des équipes également qui sont mobilisés pour venir en renfort de manière à apporter cette aide. On va se focaliser dans un premier temps sur les besoins réellement essentiels et tenter au fur et à mesure de compléter les programmes de manière à assurer cet accès aux soins, je dirais, et en tout cas aux éléments vitaux dont on a besoin.
Voilà, on vous garde encore en ligne, Monsieur Amoury Grégoire. Nous rappelons que vous êtes le chef des missions adjoint à l'ONG MSF Belgique. Il est temps pour nous de prendre quelques auditeurs qui sont également en ligne et qui ont souhaité participer à ces débats. Et ils sont nombreux, hein, qui ont pris déjà leur inscription dans cette émission depuis hier à notre courriel pa@radiocapi.net. Jean, vous êtes à Kinshasa et Jacques Colesi. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, tout en rappelant d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent également nous contacter au 081 890 43 39.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Jean, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Jean, vous êtes avec nous?
Oui.
Voilà, vous êtes à Kinshasa, vous avez suivi les uns les autres, comment vous réagissez?
Bon, merci d'abord de m'avoir accordé la parole pour l'émission d'aujourd'hui. Premièrement, je suis en train de manifester notre indignation face à ce qui nous arrive une fois de plus à l'est de notre pays. Et je voulais appeler à cela au gouvernement d'apprendre à ne pas minimiser les événements. C'est comme le phénomène Kuluna qui se passe non seulement ici, mais même ailleurs. C'est un phénomène qui a déjà perduré plus de 4 ans déjà. Et puis l'histoire de l'Est a commencé aussi comme ça. Alors je voulais attirer l'attention du gouvernement. Quand il y a un problème comme ça, il faut frapper fort au début pour éteindre l'effet immédiat. Pour revenir maintenant à la question. Pour l'instant, nous ne pouvons que tendre encore la main comme nous sommes habitués à demander auprès des ONG internationaux pour qu'ils nous viennent en aide. C'est cette pauvre population qui est habituée à la souffrance éternelle. Alors, attendre du gouvernement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Nous allons seulement demander aux ONG qui sont habitués à nous aider de nous venir encore une fois en aide. Ils doivent se fatiguer de nous parce que nous sommes encore dans notre gouvernement n'est pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas faire quelque chose, mais à l'instant présent, c'est difficile. Alors, je vais aussi demander peut-être à la population, en disant qu'ils sont sur le terrain là-bas, d'encore de mettre en pratique leur solidarité, la solidarité africaine, d'accueillir nos frères qui sont là, bien sûr, ça sera pour un temps, mais qu'ils puissent encore les aider une fois de plus. Et peut-être aussi à ces ONG internationales qui nous aident pour l'assistance, de ne pas seulement se limiter dans des grands centres ou bien seulement dans les camps de réfugiés, mais peut-être voir aussi au-delà des camps, il y a d'autres personnes qui sont au-delà des camps qui souffrent, mais qui ne reçoivent jamais de l'aide. Peut-être étendre leur mission aussi afin que tout le monde soit quand même servi tant soit peu. Parce que sinon, il y aura encore beaucoup plus de morts qu'on a déjà dénombrés à cause de la faim. Voilà un peu les quelques propositions.
Merci beaucoup, Jean. On prend Jacques qui est à Kolwezi, au Katanga. Bonjour, Jacques.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Jacques, selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ce plaidoyer des humanitaires qui demande à ce qu'il y ait un financement supplémentaire afin de faire face à la situation de l'air dans le Nord Kivu?
Oui, c'est un casse-tête. Avec le gouvernement, on est tellement fatigué. Pour le jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas l'objectif que le gouvernement est en train de mettre face à la population. Et le Congo est en train d'être tombé par terre, on n'arrive pas à comprendre. Le gouvernement, au juste, qu'est-ce qu'il cherche de nous? Parce que s'il était un ringard responsable, le responsable majeur d'aujourd'hui, pas parce que c'est le gouvernement. Ce n'est pas même les organisations internationales. Demandons-nous quand même. Ce que je suis en train de demander, le gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? S'il est responsable, il n'a qu'à le dire. Il laisse la place parce que, en commençant par les élections jusqu'à aujourd'hui, les choses ne marchent plus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont incapables qu'ils nous disent et qu'ils laissent la place à ceux qui sont responsables. C'est ça. Ce qui est quand même notre solution, c'est que nous demandons au gouvernement, s'ils ont un cœur des humains, avec tous ces gens-là qui sont en train de constituer le gouvernement d'aujourd'hui.
Oui, oui, Jacques, je crois que vous êtes sans ignorer que nous sommes une jeune démocratie, le pays est en reconstruction, il y a pas mal de choses qui sont réalisées, c'est vrai, on ne peut pas prendre tout à la fois, on commence quelque part. Je crois que par rapport à l'existence du ministère des Affaires Sociales, et aujourd'hui avec une réunion qui se tient, une réunion interministérielle, je crois qu'il en sortira quand même quelques recommandations, quelques décisions pour permettre à ce qu'il y ait une intervention urgente pour aider la population du Nord Kivu.
Le problème qui est là, c'est l'amour qu'on a pu se présenter en première position. Ils peuvent nous montrer que l'Afrique peut nous donner quand même une bonne solution. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne montre rien comme de l'amour. Ils peuvent nous montrer que non, oui, ça va. Nous chercherons à longue une solution qui peut changer et donner une solution à cette guerre. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons rien. Rien du gouvernement qui peut nous assurer que demain, peut-être, cette guerre sera enfin. C'est ouais. Le problème, monsieur Donali.
Voilà, merci beaucoup Jacques d'avoir appelé. Nous tournons du côté de notre invité, Amoury Grégoire. On va pas prendre tout votre temps parce que vous êtes appelé aussi à autre chose. Vous avez accepté de nous accorder quelques minutes de votre temps. Voilà, on revient à vous pour nous faire une idée. Tout à l'heure, on était même avec une autre agence humanitaire, PAM pour ne pas la citer. Vous êtes MSF Belgique. C'est vrai que tant que PAM a besoin d'un financement financement supplémentaire pour faire face à cette situation, autant MSF Belgique en a également besoin. Est-ce que le besoin a été déjà évalué et vous estimez le coût à peu près à combien actuellement pour MSF, pour votre intervention?
Alors, je ne veux pas citer de chiffres théoriques pour le moment parce que, bien entendu, les besoins sont toujours en train d'être évalués et, comme on l'a cité, on est pour le moment, on appuie sur des cas chirurgicaux et puis on va avoir d'autres besoins de santé. Les évaluations sont toujours en train de se faire. Maintenant, au niveau financement, il y a une particularité malgré tout pour Médecins Sans Frontières, c'est qu'on travaille exclusivement à 100% au niveau des Kivu notamment. En fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a aucun fonds institutionnel. Alors, bien entendu, ça ne nous épargne pas des difficultés financières que tout un chacun et toute organisation peut rencontrer, mais on en fait appel, je dirais, aux dons des uns et des autres à travers le monde pour pouvoir travailler de manière à œuvrer en toute indépendance et à apporter l'aide sans avoir également d'autres comptes à rendre, je dirais. Donc, à ce niveau-là, Médecins Sans Frontières définitivement a besoin de financement, mais ces financements arrivent différemment. Ils ne sont pas, en tout cas, des financements institutionnels au niveau de Kivu.
Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la prise en charge assurée par le MSF sur place? À quoi consiste réellement cette prise en charge? Est-ce que vous avez installé des centres de santé je ne sais pas, peut-être tout s'est fait en ambulatoire, les déplacés font également des déplacements pour aller vers les endroits où se trouvent les centres, ou carrément vous vous installez là où il y a des déplacés dans leur camp?
Alors, il y a différentes formes de réponses qui sont apportées, qui étaient apportées jusque maintenant et qui vont encore être apportées. Donc, je dirais, dans un premier temps, il y avait certains centres fixes, notamment des centres de traitement de choléra, qui sont mis en place de manière à pouvoir accueillir les patients qui en ont besoin pour cette maladie, qui évidemment nécessite une prise en charge extrêmement rapide. À ce niveau-là, nos équipes sont prêtes. Elles étaient également dans des camps déplacés avec des soins de santé, donc l'apport en médicaments, l'assurance de soins de santé par du personnel qualifié et un accès gratuit pour les populations. Plus récemment, dans les derniers jours, on est en fait, comme je le soulignais tout à l'heure, intervenu au sein des hôpitaux avec un apport au niveau des soins chirurgicaux. On a eu des cas extrêmement difficiles, des enfants qui sont arrivés avec la plupart de leurs membres arrachés, donc des cas très lourds en termes chirurgicales. Pris en charge dans les structures de la ville et auquel Médecins Sans Frontières a apporté notamment une aide en matériel de manière à ce que ces équipes puissent apporter à ces patients les soins adéquats et dans des conditions aussi bonnes que possible. Comme une des personnes, un des intervenants l'a souligné, les besoins ne sont pas seulement non plus dans les camps, donc on essaie d'être attentif à ce que l'aide soit apportée de manière tout à fait, je dirais, générale, à autant de personnes que possible, et notre focus de terrain, notre point d'attention est réellement d'avoir les besoins les plus essentiels répondus pour ceux qui en ont besoin, dans la mesure évidemment de nos capacités que nous sommes en train de renforcer aujourd'hui.
Amoury Grégoire, chef de mission adjoint à MSF Belgique, merci d'avoir été de nous.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Voilà, nous revenons pour entamer le dernier quart d'heure de cette émission avec les auditeurs, tout en rappelant que la crise dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les humanitaires sur les terrains. Ils sont débordés suite à un mouvement massif des déplacés enregistrés depuis la nuit de dimanche à lundi dernier. Ils plaident en effet pour un financement supplémentaire afin de faire face à la situation de l'air dans les Nord Kivu. Selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ces plaidoyers des humanitaires? Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour monsieur.
Et comment vous réagissez?
Oui, bon, j'ai d'abord quelques petites observations avant que je donne mon point de vue. La première, c'est que l'appel des humanitaires, je suis convaincu, il ne l'adresse pas au gouvernement. Ils le connaissent très bien. La deuxième observation, c'est que les déplacés avaient besoin de rester chez eux. Donc tout ce que nous ferons, ils pourront l'accepter et ils vont l'accepter malgré eux. Mais leur souhait, c'était que nous puissions les aider à rester chez eux. La troisième observation, c'est que le terrain est aujourd'hui contrôlé par l'ennemi. Ennemi du peuple ou ennemi du gouvernement, je ne sais pas, mais par l'ennemi. Alors, toutes nos actions doivent tenir compte surtout de cette dernière observation. Que devons-nous faire? Je pense que le gouvernement, il ne faut pas trop y compter. Nous vivons avec lui depuis plusieurs années. Nous savons de quoi il est capable. Il a brillé par une incapacité totale à intervenir dans toutes les situations compliquées du pays. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'était que les amis ont proposé un élan de solidarité. Et je pense que là, nous devons maintenant trouver comment canaliser cet élan de solidarité. Alors, on a proposé l'intervention de l'Église catholique ou de la MONUC. Donc, je pense que nous devons plutôt réfléchir à ce sens-là. Mais le gouvernement, il ne faut vraiment pas y compter parce que il a été dit dans les émissions précédentes que beaucoup de membres semblaient être complices. Et on peut même penser qu'aujourd'hui, il y en a qui sont en train de boire du champagne. Donc, ça c'est quelque chose qui inquiète.
Oui, Olivier. Olivier, quand vous le dites, ben ça n'engage que vous.
Oui, ça
oui.
Te plaît.
Oui, ça n'engage que vous. Ben voilà. Donc, oui. Parce que là, nous parlons de la situation humanitaire.
Ok, c'est ça justement. Mm-hmm. Donc, il aurait mieux fallu qu'on fasse de la prévention. Les humanitaires sont là depuis plusieurs semaines à crier. Nous sommes débordés et le ministre des Affaires sociales et humanitaires que vous vouliez inviter, je pense qu'il aurait eu honte de venir parler aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas intervenus au moment où ces populations avaient besoin de lui ou au moment où ces populations avaient besoin de l'action du gouvernement.
Donc vous pensez que c'est une fuite intelligente? Donc quelqu'un qui est poliment, il a refusé notre invitation?
Oui, c'était clair.
Parce qu'il n'avait rien à dire.
Ça a eu honte. Donc c'est ça. Et le gouvernement tout entier devait avoir honte et partir directement, sortir du pays ou aller ailleurs ou en brousse, je ne sais pas. Donc voilà.
Merci Olivier d'avoir appelé. David, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, David, vous avez peut-être un avis contraire à ceux de vos prédécesseurs. Voilà, donc, selon vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais face à ce plaidoyer des humanitaires?
Oui, en tout cas, comme vous avez bien précisé que j'ai un avis contraire, parce que moi, j'ai l'habitude de parler de la cause qui est des effets de la cause. Nous avons la cause qui génère tout ce qui se passe à l'est d'hostilité. Au niveau de la classe politique congolaise et au niveau de la loi, la question des nationalités des apatrides, des immigrants qui ont été là-bas depuis avant 1885 lors du découpage et la succession des événements sur cette question-là, selon le principe des droits internationaux. Il y a toujours des contradictions au niveau de la classe politique congolaise. Même s'il s'agit des principes régissant un tel ou tel domaine pour une solution à une telle question, il y a toujours des diversions et des contradictions. C'est ce qui est à la base de cette question-là. À partir de quoi? Des droits de la nationalité. Des immigrants Hutu, Burundais, Tutsi, Rwandais. Vous connaissez bien cette question-là. Alors, il vaut mieux de traiter cette question-là, dès lors on n'aura plus des effets de tels que ça se passe maintenant pour parler des humanitaires et consorts. Tant que la question n'est pas traitée jusqu'à trouver une solution finale. C'est ça, moi, mon avis à moi.
Donc, selon vous, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut une intervention urgente, parce qu'il y a des populations qui souffrent, voilà, qui passent des moments très, très, très difficiles dans l'est de la République démocratique du Congo.
Oui, nous sommes tous humains, mais la cause est là, qui produit ces effets-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit traiter les effets tant que la cause n'est pas traiter jusqu'à l'épuisement pour avoir une solution finale, pour assurer la paix à l'est de la RD Congo. Parce que les gens de petits esprits et petites visions accusent le pouvoir en place qui a hérité la situation anti-gâtée. Voilà un peu ce que je vois, moi.
Voilà, donc il faudrait que le gouvernement puisse faire l'effort pour vraiment mettre fin à cette insécurité hein, qui gagne vraiment du terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon vous, David. Donc c'est là, c'est la cause hein, de toute cette de tous ces drames humanitaires. Sinon, bon, ça sera un cycle de drames humanitaires dont on ne saura pas s'en sortir. Ça sera un engrenage qui va plus nous empêcher de nous donner l'occasion de sortir. Jean-Baptiste, vous êtes à Kananga. Bonjour Jean-Baptiste.
Oh, bonjour JR.
Voilà, voilà, on vous accorde la parole.
En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. C'est ma première fois d'assister, en tout cas, dans cette mission. En tout cas, moi, je vois que le problème qui est là, tout est déjà fait. Quand on dit que tout est déjà fait, c'est parce que nos frères et sœurs qui sont à l'Est, tout en peu vraiment de s'échapper, de se tenir debout jusque même dans des cases qui n'ont pas même de à manger. C'est pourquoi, pour moi, la solution qui est très 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 nécessaire, c'est de chercher au moins toutes les églises qui se trouvent dans notre République démocratique du Congo, qu'ils fassent au moins une cotisation pour qu'on ait vraiment, qu'on remédie la situation, pour que nos chers frères et sœurs là puissent avoir quelque chose à manger, puissent avoir du médicament, puissent avoir vraiment des contraintes. En tout cas, si vous voyez le problème du gouvernement, il n'y aura pas vraiment une solution directe avec notre gouvernement, parce que tout vraiment, on dit, il y a un adage qui dit, il y a un adage. Pardon.
Oui, vous dites, Jean-Baptiste?
Il y a un adage qui dit, on ne fête pas quand la case de ton voisin brûle. Nos frères et sœurs sont vraiment dans des conditions vraiment qu'on ne peut pas en tout cas dire. On cherche maintenant la situation, comme le PAM n'a pas de moyens, il cherche des partenaires qui peuvent l'aider à finir le problème. C'est pourquoi moi je pourrais dire qu'il faut chercher toutes les églises, les catholiques, les protestants et d'autres là, pour au moins chercher quelque chose que l'on peut aider nos frères et sœurs.
Donc vous pensez que cet élan de solidarité que propose que vos prédécesseurs ont proposé puissent passer par l'église catholique ou encore d'autres églises, d'autres confessions religieuses pour question de crédibilité. En fait, c'est ça.
Oui. C'est ça, IGR. Parce que vous voyez que avec le PLIS, la femme numéro 2, numéro 1 de notre pays, non, avait fait les contours de notre République le temps passé pour au moins cotiser des choses pour chercher au moins l'aide qu'on pouvait aider encore notre région de l'Est là. Mais l'autre église catholique ici, il y a beaucoup d'argent. Il peut contribuer à ce problème ici pour mettre fin à...
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Franck, on va terminer avec vous. Vous êtes le dernier auditeur, j'imagine. Hein, vous êtes avec nous, vous êtes en Bandaka. Bonjour Franck.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi qui me suivent à ce moment.
Oui, vous avez la parole Franck.
Oui, monsieur le journaliste, ce qui se passe actuellement au Congo, nous devons être sérieux et nous devons aussi être responsables de certains actes qui passent dans notre pays. Je crois que nous avons tout un gouvernement qui est en place. Et qu'est-ce qui... Et ça sert encore à quoi de toujours plaider aux humanitaires. Et je me demande, quelle est l'importance et quelle est l'existence du ministère des Affaires sociales dans notre pays? Mais jusque-là, si nous comptons toujours aux humanitaires, et ça prouve que notre gouvernement est incapable de répondre à certaines exigences qui se posent à notre pays, monsieur le journaliste. Par rapport à ma contribution à cette émission, ce que je dois dire au gouvernement, le gouvernement doit mettre les moyens financiers, doit faire preuve de son nom, le gouvernement, doit mettre des moyens disponibles pour éviter toutefois les problèmes qui se posent à l'est du pays et pour sauver l'humanité, pour sauver la population et nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui à l'est du pays. Le ministère des Affaires sociales doit vraiment s'imprégner de la situation. Il doit prendre ses responsabilités en main. Donc le gouvernement doit travailler, doit faire son travail. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Il doit sécuriser la population.
Voilà.
Sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire, c'est ce que le gouvernement doit faire. Nous ne pouvons pas toujours compter aux apports extérieurs. Nous avons un gouvernement propre, monsieur le journaliste. C'est pas serait toujours le compte aux apports extérieurs.
Voilà, merci Franck. Je crois que vous avez appelé la responsabilité du gouvernement. C'est par ici que nous bouclons ces débats qui a tourné d'ailleurs autour de la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci à tous d'avoir apporté votre contribution à cet échange et partage. Merci également à Guy Mantangou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Elameji l'ont réalisé. Gilles Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur notre site www.radiokapi.net. Il est 11h15. À présent, je vous convie à suivre le point de presse hebdomadaire des Nations Unies animé par Manoj Mounoubaï, le porte-parole de la MONUSCO.